Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Grand Direct de Radio Django. Six sujets au programme de ce mardi. Nous allons débuter avec toi Fabio et nous allons, comme tous les deux mois, présenter le nouveau numéro du journal Moins.
Oui, qui est sorti déjà il y a un peu avant la date prévue. Moins, journal roman d'écologie politique et on en parle avec Mathieu Glaire.
Voilà, rendez-vous donc dans quelques instants. À 18h15, il sera question d'égalité, d'intégration et de justice. Il s'agit de la reconnaissance de l'homosexualité envers les personnes en situation de handicap. Voilà, le sujet sera tout à l'heure dans cette émission. Si nos invités vont bien arriver, on croise les doigts, ils sont certainement pris dans le trafic. À 18h25, nous passerons à la Rose des Vents et nous parlerons de hotspot pour les réfugiés. Vous savez, ce sont les centres d'enregistrement et de tri des migrants. Anna est allée à la rencontre de Claude Calam, professeur à l'Université de Lausanne. Rendez-vous donc dans 25 minutes pour en parler. Toujours dans la Rose des Vents, dans 40 minutes à peu près, Daniel, nous parlerons de la tragédie des minerais en République démocratique du Congo et plus précisément du scandale géologique qui touche la région du Kivu à l'est du Congo.
Bonsoir Fabien, en effet, le sous-sol du Congo regorge de richesses minières appelées minerais de sang. Ces minerais comme l'or, l'étain et le cobalt, le coltan font l'objet au Kivu d'un pillage systématique et constituent un véritable marché national et international au détriment des populations qui vivent dans cette région.
Oui, donc un grand voyage direction le minerai et en Afrique avec Daniel, ce sera tout à l'heure. Et puis à 7h10, on passera à Cultiver Lausanne, Jean-Luc, et nous allons bouger en faisant de la capoeira.
On va danser ce soir, ouais, danser. Capoeira. Nous allons présenter un événement qui est construit autour de la capoeira, qui aura lieu au Centre socioculturel de Bellevaux dans 2 semaines, du 23 au 25 juin. Donc il y a une association, ouais, et une animatrice qui va en parler.
Parfait, donc l'histoire de prendre un tout petit peu d'avance avec l'agenda. Et puis pour conclure cette 58e émission, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi, la chronique d'actualité culturelle. Ce sera en fin d'émission, ce soir ce sera normalement juste après 19h. Le dossier du journal Moins et la présentation du nouveau numéro, l'homosexualité chez les personnes handicapées, les hotspots pour les réfugiés, la tragédie des minerais en République démocratique du Congo, la capoeira et les mardis de Stéphane Venanzi. C'est le programme de ce mardi 7 juin sur Radio Django, émission à suivre comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud ou à écouter sur radio.django.fm. Je suis Fabien et je vous accompagne jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Alors, vous le savez, nous avons le plaisir de présenter le nouveau numéro, le 23e, qui couvre le mois de juin et de juillet du journal Moins, le bimestriel créé sous l'impulsion des militants et militantes du réseau d'objecteurs de croissance, avec Mathieu Glaire. Bonsoir.
Bonsoir, merci pour l'invitation.
Bienvenue sur les ondes de Radio Django. Donc, Moins, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, c'est un journal qui anime les débats politiques romands et nationaux. Il est l'invité de Radio Django pour lancer radiophoniquement ses numéros. Et ça tombe bien parce que Django, ici, on aime bien lancer les débats et réflexions sur les thématiques qui touchent à des collectivités. N'est-ce pas, Fabio ?
Absolument, Fabien. Bonsoir, Mathieu. Alors, on va vernir en quelque sorte ce bimestriel de numéro 23, mais qui est déjà sorti il y a quelque temps, parce que en fait, un peu avant la vraie date de sa sortie, parce que vous avez inséré un dossier sur le RBI, le revenu de base inconditionnel, sur lequel on a voté dimanche passé.
Oui, bon, c'est deux jours.
Voilà, c'est deux jours. On rappelle, 23% des Suisses ont accepté quand même cette idée du RBI. Vous avez participé à ce débat, en fait, par toute une série d'articles absolument riches et qui sont de plusieurs tendances. Hein. La première question, Mathieu, est-ce que dans la presse, en dehors de moi, comment tu as trouvé que le thème a été traité ?
Alors, on a trouvé que le thème était extrêmement maltraité, c'est-à-dire, ouais, que
On peut être pour ou contre le revenu de base. Hein. Je crois qu'il y a des arguments intéressants des deux côtés. Par contre, il y a vraiment là de quoi avoir un débat de société intéressant sur des thèmes qui nous touchent, notre rapport au travail. C'est vrai qu'en Suisse en particulier, mais dans les pays du Nord, on a un rapport au travail qui est assez particulier hein, quand on compare avec certains pays du Sud où le travail joue un rôle énorme dans nos vies. Donc il y a de quoi débattre. Et c'est sûr que le débat dans les grands médias, est extrêmement pauvre. On s'est vraiment focalisé sur le financement. Est-ce qu'on pourra financer ou pas? Alors que fondamentalement, c'est sûr que le revenu de base peut avoir un coût important, mais il s'agit d'une décision politique. Est-ce qu'on veut se donner les moyens de mettre en place un revenu de base ou pas? Telle est la question qui n'a pas été posée. On a eu des affiches caricaturales. On a eu, même, je trouve, les initiateurs qui, en fixant un montant, ont focalisé sur, justement, un montant fixe et l'argent, etc. Donc, je trouve que des deux côtés, le débat a été relativement pauvre. On a évité des thèmes qui étaient vraiment intéressants. Et du coup,
Alors, vous êtes venu là, puis vous nourrissez un peu cette réflexion qu'il faut le dire, à l'instar peut-être de la VS, de congé maternité, comme les médias en ont parlé. Ça met du temps, il faut réfléchir, il faut penser à qu'est-ce que ça pourrait devenir dans la mesure où on ne pourra pas faire autrement qu'un jour retrouver un revenu de base pour les personnes. Alors, on trouve une foultitude d'articles dans moi, pour et contre, en fait, toi, hein, avec certains critiques, etc. Est-ce que tu nous résumes un peu cette grande masse de
oui, pensées. Alors je dirais que même effectivement à l'intérieur de la rédaction, il y avait des débats, des discussions, tout le monde n'était pas d'accord. En gros, il y a quand même une certaine critique vis-à-vis de ce revenu de base pour des raisons différentes de celles qu'on a lues dans les grands médias. Mais en gros, on peut résumer en disant, je crois que d'un côté, on voit bien l'intérêt que peut présenter un revenu de base dans le sens que tout plein d'activités, qu'elles soient militantes, artistiques, tout plein d'activités qui sont peu reconnues au jour d'aujourd'hui, que des gens aimeraient pouvoir mener, mais qui sont difficiles dans une société productiviste, capitaliste, etc. Un revenu de base permettrait évidemment une marge de manœuvre plus grande à plein de personnes qui désireraient faire des choses importantes plus facilement, comme voilà, l'art, la culture, etc. Donc là, je crois qu'on voit assez bien un certain potentiel, on dira, libérateur d'une pression économique pour nous, pour les gens. Donc voilà, en gros, en tout cas, un argument intéressant. Et puis, des arguments, disons, qui nous ont travaillé, il y en a plusieurs qui sont plutôt contre, qui serait de signaler qu'il y a le fait de recevoir sous forme monétaire, le fait de ne pas remettre fondamentalement en cause une société productiviste, puisqu'il faut bien produire de l'argent, puisque ce revenu est distribué sous forme d'argent. Donc il y a une insertion très forte quand même de ce revenu dans la société productiviste d'aujourd'hui. Donc voilà, il y a certaines questions de fond qui nous semblaient devoir être soulevées, puis qu'on a essayé de soulever dans ce dossier.
Il y a même un article, je ne sais plus lequel, hein, il y en a tellement, qui dit est-ce que ce n'est pas une mesure un peu libérale, en fait, hein, parce que tout à coup, les patrons d'entreprise vont se décharger sur l'État pour se préoccuper un peu de ce qui va être l'occupation ou la non-occupation dans le futur.
Oui, c'est vrai qu'on voit depuis l'origine d'une idée d'un revenu universel au 19e siècle qu'il y a des personnes, on pourra dire de droite, des personnes libérales qui défendent ce revenu, actuellement en particulier dans certains pays comme en Finlande, j'ai un doute, mais en tout cas dans un des pays scandinaves, il y a une proposition de mettre sur pied un revenu inconditionnel, mais qui supprimerait en fait tous les autres aides sociales. Donc il y a effectivement, il ne faut pas cacher qu'il y a des forces qui ne sont pas forcément progressistes, qui militent
pour ça.
Donc il faut être conscient qu'il y a un risque, surtout en Suisse, où le filet social peut être très largement amélioré, mais il existe. Donc il y a un risque, effectivement, de sous-enchères sociales avec un revenu de base. Donc on tenait à souligner aussi cela.
Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle beaucoup du travail. À quoi sert le travail? Pourquoi on travaille? Est-ce que c'est le salaire qui détermine le travail qu'on fait, en quelque sorte? Alors que peut-être qu'il faudrait se dire de quoi j'ai besoin dans ma vie pour vivre décemment, pour ne pas pousser à une croissance illimitée. J'ai besoin de ça, donc je vais travailler pour ce montant-là. Enfin, c'est inverser un petit peu le rôle salaire-travail, en fait. Mm-hmm. Et ça, c'est un des articles qui va assez à fond là-dedans. C'est des réflexions qui sont extrêmement intéressantes. Une autre, notamment, sur une femme, Alessia Didio, qui parle du RBI du côté des femmes, enfin, vu du côté des femmes. C'est une mesure, encore une fois, masculine.
Oui, elle propose cette idée que l'idée d'un revenu de base inconditionnel ne pouvait germer que dans la tête d'un homme. Ouais. Et c'est effectivement une réflexion intéressante.
Elle a aussi de nouveau travail salarié, travail qui n'est pas salarié, mais qui est le travail domestique, etc. Mmh. Voilà, avec... Bon, dossier magnifique, génial. Il faut lire moins, ne serait-ce que pour avancer un peu dans cette idée de décloître un peu les idées, etc. COP 21.
Un bon sujet, hein.
COP
21. C'est conséquent aussi.
Le titre du... C'est FLOP 21, je crois. C'est un...
Oui, c'est un jeu de mots un peu facile. Mais
c'est un jeu de mots facile, d'accord. Un entretien avec Daniel Tanuro, qui est... je ne me rappelle plus, mais qui est...
C'est un éco-socialiste belge, qui est aussi ingénieur agronome. Donc, c'est quelqu'un qui est tout à fait reconnu en termes aussi universitaires. C'est un professeur à l'université à Louvain-la-Neuve et qui est aussi militant éco-socialiste et qui est venu il n'y a pas longtemps... en Suisse romande dans le cadre de l'université de printemps du parti Solidarité, et puis on a profité de sa venue ici pour l'interviewer sur cette question dont il est un spécialiste.
Et il est très critique en tout cas sur la COP 21.
Oui, il est très critique sur la COP 21. Ça prolonge un article qu'on avait fait à l'automne dernier avec j'ai un blanc sur son nom parce que c'était un Pablo Solon, voilà, qui était un politicien bolivien, et puis ils ont travaillé ensemble, donc ils se répondaient aussi l'un l'autre dans ces articles pour dire qu'effectivement la COP 21 était une farce au-delà des effets de manche médiatiques et gouvernementaux qu'on a pu faire. Mais voilà, Daniel Tanuro dans cet article remet un petit peu les choses au point, voilà où on en est, voilà ce qu'il faudrait faire, et puis voilà ce que l'accord permet de faire. Donc il montre qu'il y a un gouffre entre ce qu'il faudrait faire, même selon les scientifiques les plus pointus, hein, il ne s'agit pas d'un point de vue, disons, de Khmer vert, hein, c'est vraiment selon les scientifiques les plus au point, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à quoi est-ce que se sont engagés les gouvernements, et puis on se rend compte qu'il y a vraiment un fossé.
Et puis, bon, il montre aussi qu'un certain nombre de scientifiques proposent des solutions, mais c'est un petit peu, comment dire, tiré par les cheveux, non?
Oui, alors il parle de technologie d'apprenti sorcier, hein, c'est tout ce qui concerne la géo-ingénierie. Ben, effectivement, il explique que comme ce qu'il faudrait faire pour maintenir le réchauffement en deçà des 2 degrés par rapport aux températures pré-industrielles, ce qu'il faudrait faire pour les maintenir en dessous de ce seuil, par rapport à la société productiviste, au monde capitaliste d'aujourd'hui, c'est tellement difficile en réalité, voire impossible. Et puis évidemment, pour les grands de ce monde, diminuer la production n'est pas envisageable. Donc on imagine des technologies qui hyper complexes, hyper dangereuses, dont on sait assez peu de choses, et qui permettraient, entre guillemets, le miracle de préserver autant l'environnement que les bénéfices des grandes entreprises.
Oui, j'imagine. On saute un peu du coq à l'âne, enfin non, peut-être pas, mais l'antispécisme. Vous avez inséré un article sur...
Alors, sauter du coq à l'âne, c'était une très bonne expression. Pour parler d'antispécisme,
oui,
t'as même pas fait exprès, mais la transition était pas mal. Hein. On aurait voulu la faire, qu'on n'aurait pas pu.
En fait, du coq à l'âne. Antispécisme, le fait de traiter toute espèce vivante de manière égalitaire, c'est un des discours qu'on entend de plus en plus. Hein. Tiens, c'est peut-être un hasard. De quel point de vue vous avez parlé de l'antispécisme?
Alors le but, c'était d'essayer de faire connaître un petit peu ce qu'est l'antispécisme. Hein. Je crois qu'on parle beaucoup d'aujourd'hui, peut-être plus de tout ce qui est dans le domaine du végétarisme, on parle de véganisme, etc. Donc on sent qu'il y a plusieurs niveaux ou plusieurs types, disons, de rapports aux animaux. Et puis l'antispécisme présente donc une vision, une manière de pour l'être humain de se relier au monde et aux autres êtres vivants, en particulier les animaux, qui nous semblait intéressante. Donc on avait envie d'en parler. Donc en fait, on a invité deux personnes. Une personne qui fait partie, qui est donc antispéciste, qui fait partie d'un collectif qui défend les droits des animaux. Et puis une personne qui est un philosophe et puis qui s'interroge sur certaines tendances de la modernité. Et puis donc qui dialogue autour du respect de l'animal, du rapport entre l'humain et l'animal, de la frontière artificielle ou naturelle que l'on érige ou bien qui existe naturellement entre l'humain et la nature, et les animaux.
Est-ce que vous allez continuer, par exemple, sur l'antispécisme ou sur le spécisme, comme ça, vous allez continuer un peu à ramener des réflexions? Parce que tout à coup, c'est un article avec un peu le pour et le contre, etc., mm-hmm. des théories philosophiques intéressantes. On a envie d'aller un petit peu plus loin.
Je prendrai du coup cette question comme une demande pour un futur dossier.
Non, mais c'était pour savoir si c'était un...
Non, il n'y a rien
vous,
de...
Si vous jetez quelque chose un peu à l'eau et puis après vous recueillez aussi un peu des avis...
Non, alors ce n'était pas l'idée. L'idée, c'était de faire un débat sur cette question. Il y a plein de questions qu'on fait une fois un article, qui reviennent une autre fois, sur lesquelles une fois on va faire un dossier. Là, a priori, on n'a pas d'idée derrière la tête, ce qui n'empêche qu'il pourrait très bien y avoir une fois effectivement un dossier complet sur ce rapport sur cette question du rapport entre l'être humain et la nature, en fait.
Oui, bon sujet, hein, qu'on pourra vous recevoir pour en parler quand vous le traiterez, n'est-ce pas?
Volontiers.
Merci beaucoup, Mathieu Glaire. Petit rappel encore pour acheter ce journal actuellement, où est-ce qu'on peut le trouver?
Donc ce journal se trouve dans une bonne partie des kiosques de Suisse romande au prix de 5 francs. Et puis vous pouvez nous le commander au prix libre à info@achetezmoi.ch. Il est au prix libre, au numéro, également à l'abonnement.
Merveilleux. Et puis on le reconnaît, hein, cette fois-ci, une grosse enclume. Revenu de base.
Voilà, qui écrase d'un côté la richesse et de l'autre la paix sociale. Voilà
ben, effectivement, on a eu le résultat il n'y a pas longtemps. On se positionne
pas, mais
voilà, tout a été écrasé, effectivement. Merci beaucoup, Mathieu Glaire. Et sachez aussi que le réseau Objection de Croissance Vaud, en partenariat avec Pôle Sud, organise ce soir même, dès 19h, un café des croissances sous le titre de Tout peut changer, avec notamment la projection de Tout peut changer, ça tombe bien, un documentaire signé 2015 de Avi Lewis, avec la narration de Naomi Klein. Voilà, ce sera tout à l'heure, juste après cette émission, ici même à Pôle Sud, dans la salle AID. Merci beaucoup Fabio pour la préparation de ce sujet.
Je t'en prie.
Et on se retrouve très bientôt avec moi, mais avec d'autres sujets.
Sans sauter du coq à l'âne.
Sit there and count your fingers. What can you do? Oh girl, you're through. Sit there and count your little fingers, unlucky little girl blue. Sit there, count the raindrops falling on you. It's time you knew. All you can count on is the raindrops that fall on little girl blue. No use, oh girl, you may as well surrender. Your hope is getting slender. Why won't somebody send a tender blue boy to cheer a little girl blue? When I was very young, the world was younger than I, as merry as a carousel. The circus tent was strong with every star in the sky. Above the ring I loved so well. Now the young world is grown old, gone and the tinsel and gold. may as well surrender. Your hope is getting slender. Why won't somebody send a tender blue eye to cheer little girl blue? Cheer little girl blue. Cheer little girl blue. Cheer little girl blue.
Radio Django, la rose des vents.
Avec une précision suisse, ce soir 18h20, on entame la rose des vents et ce soir précisément l'avis des collectifs qui vous propose d'écouter l'interview de Claude Calame, professeur à l'université de Lausanne et militant pour la cause des migrants. Anna est partie à sa rencontre pour le questionner plus précisément sur le sujet des hotspots. Vous savez, c'est ces centres d'enregistrement et de tri des migrants. Ces centres sont situés notamment dans le pays, dans les pays de la frontière européenne et à travers ces différentes zones en Grèce, mais en France aussi. Claude Calame nous propose son point de vue sur cette dernière idée de l'Union européenne. Voici un premier extrait.
Alors justement, vous parlez de discrimination. Aujourd'hui, on parle particulièrement des hotspots. Donc je rappelle que c'est des centres d'enregistrement et de sélection des migrants, en fait, pour faire la sélection entre les réfugiés de guerre et les migrants économiques. Justement, par rapport à ces discriminations, on voit une espèce de hiérarchisation des migrants. Éthiquement, qu'est-ce que ça pose comme problème, finalement, cette hiérarchisation des migrants?
Alors, ce qu'il faut d'abord dire sur les hotspots, c'est qu'il s'agit évidemment d'un euphémisme dont les anglo-saxons ont le secret. Et comme vous l'avez mentionné, il s'agit de, tout simplement, de centres de tri. Hein, et ils ont été proposé par Angela Merkel, approuvé par François Hollande, à la suite du déplacement des routes des migrants de la Méditerranée centrale du côté de la mer Égée, en particulier entre Izmir ou la côte turque et l'île de Lesbos. Enfin, il y a l'île de Lesbos qui est concernée, également l'île de Kio. Et qui dit tri dit aussi critère de tri, et on a restitué ou reformulé à ce propos, à cette occasion, deux catégories. Une catégorie qui est celle des réfugiés, d'une part, et une autre catégorie qui est celle des migrants, entendez en fait réfugiés économiques. Hein. Donc une première discrimination, ensuite un deuxième malentendu à l'occasion de cette distinction. Il ne s'agit pas de réfugiés, mais de demandeurs d'asile. En France, on parle de demandeurs d'asile. Ici, on parlerait de requérants d'asile. Hein. Et il faut bien se rendre compte que le tri porte sur les requérants d'asile qui sont eux-mêmes soumis ensuite à un second tri par l'intermédiaire de la demande d'asile qu'ils sont contraints de déposer dans le pays d'accueil, en l'occurrence la Grèce ou pour la Méditerranée centrale, à partir de la Libye, naturellement l'Italie, avec encore d'autres problèmes qu'on pourra évoquer.
Ouais, en effet, des problèmes, il n'en manque pas. Nous avons ensuite demandé à Claude Calame ce qu'il pense du fait que les puissances européennes délèguent ce tri aux pays situés aux frontières, comme la Grèce ou l'Italie. Il semblerait que les hotspots ne soient pas les seuls outils de l'Union européenne.
La première mesure qui a été prise, c'est celle de l'érection de barrières physiques, fermant de ce fait, et ceci avec l'accord de l'Union européenne, je voudrais dire plus précisément avec l'accord du Conseil européen, qui réunit donc les 28 chefs d'État ou représentants des 28 États qui font partie de l'Union européenne, qui a soutenu la Macédoine dans cette fermeture de ce qu'on appelle désormais la route des Balkans. Alors, d'une part, ces barrières, et ces barrières physiques de plus en plus nombreuses. D'autre part, le contrôle des voies maritimes, essentiellement dans un premier temps et dans une première phase en Méditerranée centrale, disons entre la Libye et l'Italie du méridional, l'Italie du sud. On essaie de contrôler les passages, et ceci sous le prétexte de lutter contre les filières de passeurs, sans mentionner le fait que si migrants et réfugiés, si les exilés et les exilés doivent recourir aux services souvent très dispendieux des passeurs, c'est tout simplement parce que l'Union européenne a bouclé ses frontières. Et puis la troisième mesure qui a été prise, enfin, c'est un train de mesures, c'est l'externalisation des frontières, c'est-à-dire que on essaie d'imposer aux pays limitrophes de l'Union européenne, surtout évidemment dans ses frontières méridionales, on essaye de leur imposer de retenir migrants, requérants d'asile, réfugiés et exilés.
Merci beaucoup à Claude Calame d'avoir répondu à nos questions au micro de Anna pendant sa courte halte à Lausanne. Et si ce sujet vous a intéressé, vous interpelle, sachez que vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview très prochainement sur notre site www.django.fm.
Radio Django, le grand direct, 18-19h.
Le 24 mai, La Rose des Vents proposait un sujet sur la situation des droits de l'homme au Kivu, en République démocratique du Congo, et les chambres foraines, un instrument pour lutter contre l'impunité. Le 31 mai, nous recevions Kadi Absouba, journaliste pour Radio Okapi, et Mike Hoffman de Vivere, qui évoquait le combat quotidien des femmes au Kivu. Et ce soir, Daniel, nous allons même parler tout de suite de la tragédie des minerais en République démocratique du Congo, et plus précisément du scandale géologique qui touche la région du Kivu à l'est du Congo. Bon, alors, qu'entendons exactement par un scandale géologique ?
Alors, le sous-sol du Congo regorge de richesses minières, appelées aussi minerais de sang. Ces ressources géologiques, comme l'or, l'étain et le coltan, font l'objet, au Kivu, d'un pillage systématique et constituent un véritable marché national et international au détriment des populations qui vivent dans cette région. Région qui comprend, entre autres, 80% des réserves mondiales de coltan, un minerai nécessaire à la production de certains ordinateurs, des téléphones mobiles et des consoles de jeux. Le cœur du problème réside dans le fait que cette richesse ne profite pas au développement national et génère des conflits sans fin entre différents acteurs intérieurs et extérieurs.
Alors effectivement, cette guerre est avant tout une guerre africaine ?
Pas tout à fait. Disons que le Kivu reste le terrain de jeu de plusieurs acteurs défendant des intérêts politiques, stratégiques et surtout économiques. Tout le monde rêverait de s'approprier le sous-sol congolais, ou du moins d'en tirer profit. Nous en parlerons avec notre invité.
Effectivement, j'imagine bien que tout le monde a envie d'en profiter. Alors, quelles sont les conséquences de ce pillage géologique au plan humain, puis aussi environnemental ?
Alors, le problème, c'est que le mode d'acquisition, comme l'exploitation de ces ressources, porte préjudice aux écosystèmes naturels et porte atteinte aux droits de l'homme. Massacres, violences faites aux femmes et travail forcé des enfants dans les mines et les carrières. Et c'est dans ce cadre que certaines ONG parlent de malédiction des matières premières. 6 millions de morts depuis 1998, 4 millions de déplacés qui font de ce conflit le plus meurtrier après celui de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour cette raison que ces minerais sont appelés les minerais de sang ou les minerais préférés du diable, titre du dernier livre de notre invité de ce soir, Germain Dibemzi Bayedi.
Bonsoir Germain.
Bonsoir.
Soyez le bienvenu sur les ondes de Radio Django. Vous êtes d'origine congolaise, vous êtes installé en Suisse depuis quelques années, journaliste de formation, vous êtes l'auteur de Procès Mobutu, publié en 2010 aux éditions Percé. Oui. Cette fiction politico-judiciaire a d'ailleurs fait l'objet d'une adaptation théâtrale en janvier 2016 qui a remporté un certain succès à Lausanne. Inconditionnel de la plume durant la préparation de la pièce, vous continuez d'écrire et publié en mars 2016, par exemple, aux éditions Yveline Éditions, Les minerais préférés du diable, tragédie au Kivu. Que raconte ce livre basé sur des faits réels ?
Oui, c'est un livre qui raconte la tragédie qui se passe au Kivu. Depuis déjà près de 2 décennies, sur ces coins de la planète, il se passe des crimes monstrueusement, vraiment effroyables, et que des populations se font décimer. Il y a une sorte de pillage des ressources minières de la région, et puis il y a les viols des femmes. Il y a même certains rapports qui disent que désormais les Kivu, c'est la partie concernée, est devenue la capitale mondiale du viol. Et ces viols sont souvent suivis par des mutilations génitales, et puis il y a une sorte d'exclusion des femmes violées. Donc il y a plusieurs phénomènes qui se passent. Mais est-il que ce qu'il faut retenir, que dans cette partie de la planète, il se commettent des crimes vraiment, vraiment effroyable.
Mais alors, est-ce que cette région-là, on en parle, vous la connaissez, cette région? Est-ce que vous ne pensez pas, peut-être, c'est parce qu'on la connaît un petit peu qu'on peut dire qu'elle est extrêmement mutilée, qu'elle est extrêmement violente, etc.?
Mais c'est comme l'avait dit Daniel tout au départ, c'est un terrain de jeu de plusieurs acteurs, internes, externes, et que c'est un terrain qui attire, vraiment, franchement, Il y a tellement de richesses là-bas. Les gens disent même qu'il n'y a qu'à se rabaisser pour ramasser des minerais. Ça veut simplement dire que c'est ça le nœud du problème.
Avant de revenir au jeu des acteurs, il serait intéressant de comprendre un petit peu le contexte du livre. Vous dites avoir écrit ce livre en versant l'encre de vos larmes. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qui vous a écrit à conduire ce roman? C'est votre profession de journaliste, ou c'est plutôt un plaidoyer contre la barbarie humaine et l'injustice, ou des origines du Kivu?
C'est un peu les tout à la fois. Hein, apparemment, vous avez tout dit. Donc, d'abord, en tant que journaliste, je dois informer, je dois dénoncer, mais je me suis toujours considéré comme étant un observateur de la société. J'observe ce qui se passe dans la société. On essaye un peu d'être une sorte de voix des sans-voix, parce que les gens souffrent là-bas, et que des fois, ils n'ont toujours pas l'occasion de s'exprimer ou de se faire entendre. Et nous substituons à eux, en fait, en écrivant, oui, en écrivant, en dénonçant, en informant, et à essayer un peu de veiller les consciences.
Vous affirmez dans votre livre qu'il n'y a jamais eu d'objectif politique dans cette guerre. Mais qu'est-ce qui justifie alors ce conflit, et quels sont les principaux acteurs?
Alors, ce qui justifie ce conflit, c'est la cupidité. Vous savez, à la base, l'être humain a une tendance naturelle à vouloir s'accaparer de quelque chose qu'il peut saisir. Et les voisins de la RDC, les pays limitrophes de la RDC, les Rwanda, l'Ouganda, Burundi et les grandes puissances, ils se disent que mais nos voisins, les Rwandais peuvent le dire, hein, nos voisins, ils ont des minerais, ils sont riches, mais on peut les avoir. Alors on les prend. C'est ça le problème. Donc cette guerre est motivée d'abord par la cupidité. Il y a tellement des enjeux économiques qui sont...
Mais c'est plutôt la soif de l'argent, en
justement,
fait.
Justement.
Mais ouais. Il serait intéressant aussi d'expliquer que peut-être dans le rôle que peut jouer le Rwanda dans cette région, c'est qu'il y a une convoitise des terres parce qu'il y a un problème démographique et il n'y a plus suffisamment de place, en fait, pour les habitants du
justement,
Rwanda.
Justement, il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ces conflits armés à répétition. Hein. Et on peut déceler des problèmes d'ordre territoriaux, des problèmes démographiques et par-dessus tout économiques. Voilà, on connaît bien, c'est une région qui est minée par des problèmes de manipulation identitaire, problèmes d'insécurité et des stéréotypes de tout genre.
Donc on parle de manipulation identitaire, il serait peut-être intéressant de préciser qu'effectivement, en 1910, il y avait des Rwandais qui étaient déjà installés au Congo, dans cette région-là. Et c'est quand il y a eu la partition, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, et notamment la colonisation, que finalement, en fait, ces Rwandais ne se sont plus retrouvés chez eux. Et il serait peut-être important aussi, pour que nos éditeurs puissent comprendre les différents enjeux.
Oui. Justement, on peut dire qu'il y a des causes lointaines, des causes immédiates, il y a plusieurs causes.
Mais est-ce que vous pensez que le conflit repose sur des causes lointaines?
Moi, je l'ai toujours pensé, parce que moi, je peux me remonter un peu plus loin, vers les années 1800, où il y a des images qui montrent que, par exemple, les Belges qui arrivent sur place, qui trouvent que dans les territoires rwandais, qu'il y avait deux peuples différents, donc les Hutus et les Tutsis. Et ils ont commencé à faire la différence. On voyait sur les images que les Belges qui arrivaient avec une sorte de machine, je ne sais pas quoi, et qui essayaient un peu de séparer la population sur base des frais, des traits phénotypiques. Donc les Tutsis d'une part et les Hutus de l'autre. Et ça, c'est des choses qui restent dans la tête. C'est ça, c'est semer un peu la division. On en parle peu ou même pas, mais il y a des images qui peuvent confirmer ce que j'ai dit. Donc il y a des causes lointaines et petit à petit, voilà, il s'est mêlé beaucoup de choses, les intérêts économiques et puis les génocides. N'oublions pas les génocides rwandais qui ont engendré beaucoup de problèmes sécuritaires. Voilà, après les génocides, il y a beaucoup de Hutus qui sont d'aller au Congo parce que c'est l'hospitalité africaine quelque part, mais aussi à l'époque les Zaïres, c'était les Zaïres, donc la RDC actuelle, il y avait un président qui était là, qui était contraint d'accepter ces populations Hutus en fuite. Je me souviens, il y avait à l'époque c'est François Mitterrand qui était le président français et qui a fait pression à Mobutu à l'époque. Donc il était contraint d'accepter toute cette population Hutu qui traversait la frontière congolaise.
Pour venir s'installer dans
Oui, ils s'y sont installés et c'est ce qui sert un peu de mobile quelque part aux armées rwandaises actuelles. Donc,
et c'est ce qui explique pour... Enfin, ce sont des raisons qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que le pays est dans la tourmente finalement depuis plus de 20 ans.
Justement, mais moi je pense qu'il y a, il y a un plan, c'est-à-dire qu'il y a un plan et chaque plan a un concepteur. Et ceux qui ont conçu ces plans, ils n'ont pas choisi ces terrains de Kivu par hasard. Ils savaient très bien que c'est un terrain à problème. Comme j'ai dit, c'est un terrain qui est miné par des problèmes d'insécurité, des manipulations identitaires, des stéréotypes de tout genre. C'est ça, donc ils ont réfléchi à ça, mais tout ça parce qu'ils savaient ce qu'il y avait sur le sous-sol congolais. On a parlé du coltan, la réserve mondiale du coltan se trouve exactement dans cette région.
Dans cette région.
Et aujourd'hui, sans le coltan, eh ben, les grandes multinationales, leaders de téléphones et consorts, n'auront que leurs yeux pour pleurer. On le sait bien.
C'est donc le thème de votre livre.
Justement.
Mais ce qui serait aussi intéressant, c'est que finalement, quand on lit votre livre, vous dénoncez. Mais vous auriez pu aussi l'intituler J'accuse. Dans votre première fiction, Procès Mobutu, oui, vous mettez en cause le régime Mobutu et en filigrane la communauté internationale. Dans votre dernier livre, donc Les minerais préférés du diable,
oui,
vous êtes plus amer à l'endroit des puissances occidentales. Et dans quelle mesure pensez-vous que la communauté internationale porte une responsabilité dans ce drame du Kivu ?
Vous savez, comme je l'ai dit, moi je suis un observateur de la société. Donc lors de mon premier livre, Les procès Mobutu, j'ai acquisé tout un système qui est installé depuis longtemps en Afrique. Aujourd'hui, on se félicite, par exemple, qu'il y avait l'ex-président tchadien Hissène Habré qui a été condamné par une juridiction africaine. C'est une grande première. Donc moi, je me dis, ah ben j'ai bien fait d'écrire Procès Mobutu. Parce que c'était dans ce cadre-là. Ça dit que le but, c'est d'essayer un peu d'installer cette notion de responsabilité. Il faut que les responsables africains sachent que en gouvernant, ils auront des comptes à rendre à la fin. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi comme ça s'est fait. Donc, et dans les minerais préférés du diable, c'est vrai que la communauté internationale doit être acquise par son immobilisme, son laxisme, son hypocrisie.
Et en parlant de la communauté internationale, il serait aussi intéressant d'avoir votre regard sur ce marché des minerais,
oui,
donc, qui est entretenu par différentes puissances occidentales, asiatiques, nord-américaines et asiatiques,
oui,
qui achètent des produits miniers qui indirectement en fait, arment les belligérants.
Oui.
Il n'y aurait donc aucun contrôle de ce marché mondial, okay, sauf la loi Dodd-Frank, qui a été instaurée donc par le Congrès américain en 2010. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative en deux mots, s'il vous plaît? Et le but de cette initiative était donc de stopper les importations frauduleuses.
En deux mots, je vais dire que c'est une loi qui est fortement critiquée parce qu'on décèle derrière tout ça, c'est de l'hypocrisie. Parce que dans la pratique, rien ne s'est fait. Les textes sont bons, on n'en disconvient pas. Mais le problème se pose au niveau de la pratique. Comment se fait-il qu'un pays comme le Rwanda, qui ne possède dans son sous-sol aucun minerai, pas les coltans, en tout cas, il n'y a pas, mais qui, comme par miracle, figure parmi les grands pays exportateurs de cette matière première qui ne possède pas. Et cette communauté internationale, elle est où?
Donc vous, vous entendez que finalement ces minerais passent, enfin qui sont en fait récoltés de manière artisanale, oui, passent de manière clandestine sur le Rwanda.
Ils sont certifiés conformes par le gouvernement rwandais. Donc c'est une mafia internationale. Raison pour laquelle quand vous allez là-bas, il y a beaucoup qui pensent qu'il y a un complot contre la RDC, un complot à l'échelle internationale. Voilà qui alimente la théorie du complot.
Mais ce qui serait aussi intéressant de creuser, c'est que malheureusement, effectivement, il y a probablement un complot autour de l'extraction et de l'exploitation de ces minerais.
Bien sûr.
Mais il y a un autre problème qui se pose concernant les populations, parce qu'il semblerait que, suite à cette loi, finalement, les personnes du Kivu, en fait, qui travaillent dans les mines, ne touchent plus du tout d'argent.
C'est vrai.
Une pauvreté qui s'installe.
C'est vrai.
Mais c'est donc paradoxal. C'est terrible de s'imaginer que, finalement, cette population vit de l'extraction des minerais.
C'est pourquoi on a toujours voulu que les responsables prennent les choses en main. Les gouvernements congolais, les acteurs de la région des Grands Lacs et la communauté internationale. Il faut qu'ils fassent leur travail. Ça dit que chacun doit se montrer efficace dans son rôle pour essayer un peu d'arranger un peu les choses. Parce que là, c'est vraiment c'est l'imbroglio, quoi. C'est le désordre, c'est une poudrière là-bas.
Et est-ce que vous pensez que votre livre, en fait, peut être un premier éveil, voire un xième éveil à cette problématique ? Parce qu'il y a déjà plusieurs textes qui ont été écrits, il y a déjà plusieurs acteurs impliqués qui se rendent bien compte que c'est un fléau.
Justement, et nous, on va continuer à dénoncer. Voilà, c'est notre rôle aussi.
Eh bien, bonne chance en tout cas,
merci
Germain.
Beaucoup.
Merci beaucoup d'être venu nous faire ce plaidoyer contre l'injustice qui sévit au Kivu. On rappelle, mourir est une règle, vivre une exception. Hein, c'est une phrase un peu profonde, mais qui a lieu d'être. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau ce soir pour nous parler de votre ouvrage. Et merci Daniel pour la préparation de ce sujet.
Merci. Thank you.
tant de mépris. Quelques lignes infimes pour des crimes infâmes, tout un peuple infirme et les larmes d'une femme. Quelques mots infimes pour les fautes infâmes, la conviction intime d'un immuable drame, d'un immuable drame, d'un immuable drame. D'un immuable drame.
Radio Django Culture.
Eh bien oui, à 7h moins quart, on passe à la culture. Et aujourd'hui, nous allons parler de la capoeira et d'une rencontre qui aura lieu au Centre socioculturel de Bellevaux. C'est à Lausanne. Ce sera du 23 au 25 juin. Lors de ces journées, il y aura plusieurs activités en relation avec cet art martial afro-brésilien. D'ailleurs, la capoeira représente aussi un engagement social. Et à ce niveau, les initiateurs de cet événement ont prévu des conférences, des projections de films et des expositions qui abordent le sujet de la traite des êtres humains, que ce soit au Brésil ou en Suisse, et des autres thématiques, comme par exemple la lutte de l'émancipation, notamment au Brésil, avec la question des paysans sans terre. Pour en parler ce soir, nous accueillons Sival de Oliveira. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président de l'association Bantu Brasil. Et avec nous également, Séverine Pedraza. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes animatrice au Centre socioculturel de Bellevaux. Et puis nous sommes avec Jean-Luc pour parler capoeira.
Oui.
Grand passionné.
Grand passionné, non. Je ne peux pas dire que je suis un grand passionné de la capoeira. Je connais...
Pratiquant peut-être.
Non, je ne suis pas pratiquant. Pratiquant de quoi? Bon, je crois qu'il y a d'autres choses plus intéressantes à dire sur la capoeira. Donc, c'est vrai que la capoeira, c'est un art martial du Brésil. Mais tu pourrais nous parler un petit peu plus de l'histoire de cet art martial au Brésil.
Oui. Alors, l'histoire de la capoeira commence à partir de la traite négrière. Les Africains qui sont arrivés au Brésil pour travailler dans les fermes, dans les plantations de canne de sucre, ils ont développé une méthode de se défendre. Et la capoeira, c'était ça, une méthode de se défendre contre le frappage, contre les... On peut dire...
Mais ils utilisaient vraiment ces méthodes de défense
ou oui, oui, oui. Ils se cachaient la danse, le combat dans la danse, parce que la capoeira était interdite.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer, puisqu'on n'a pas l'image logiquement, oui. Puisqu'on a la radio, nous expliquer à quoi ressemble la capoeira?
La capoeira, elle est inspirée au mouvement des animaux, cheval, de singe. Et là, le bout de CD fait un vrai combat, mais caché dans une danse. Et ça, le bout de la capoeira.
Parce que justement, la capoeira a été interdite très très longtemps.
Oui, oui. Dès que commençait la colonisation au Brésil, elle était interdite parce que toute la culture africaine au Brésil, elle était persécutée pendant des années. Et elle était interdite jusqu'en 1930. Et après, la capoeira a été accepté pour la société comme un sport national.
Et il semble qu'à partir de là, la capoeira s'est étendue un peu dans tout le monde. Hein,
oui, on peut dire à partir de 1970, elle a commencé vraiment à sortir du Brésil et là que la société a compris qu'elle a vraiment une valeur culturelle brésilienne.
Mais alors, quelques mots sur ce côté engagé de la capoeira, parce que voilà, elle est née des questions de gens qui étaient démunis, enfin, etc., qui devaient se défendre. Donc, elle a toujours été engagée à quelque part, la capoeira.
Oui, les Africains ont été subis le racisme là-bas. Et la capoeira, c'était une forme de travail, de se battre contre le racisme. Et Ela é esse rapport de résistance africaine dans le Brésil, la culture africaine dans le Brésil.
Donc vous avez toujours dénoncé justement ces questions-là, oui. En fait.
Oui, dans les favelas. Oui.
On vous en prie, dans les favelas.
Oui, dans les favelas, dans les petits villages, la capoeira était toujours présente. Et c'est elle qui a transmis la culture afro-brésilienne pour les nouvelles générations.
Séverine Pedraza, vous travaillez comme animatrice au centre de Bellevaux. Comment a commencé la collaboration avec l'association Bantu Brasil?
Bon, en fait, l'association n'existait pas. On a commencé la collaboration
par
avec
la créer.
Siva, ah. qui est prof de capoeira au centre. Et il avait plein d'idées, il a plein d'envie et plein d'ambition pour partager l'histoire et les valeurs de la capoeira. Et on l'a encouragé en fait à monter cette association aussi pour pouvoir organiser ce genre d'événement qu'on aura en juin.
Alors on dit que ça se déroule à Bellevaux. Qu'est-ce que ça a apporté aux habitants de ce quartier d'amener de la capoeira dans le coin?
Alors en fait, il y a plein de niveaux qui sont intéressants. Il y a d'abord les enfants qui font la capoeira, qui participent aussi à cet événement et qui apprennent des choses sur ce qu'est ce sport, qui font pas seulement un sport, mais qui transmettent aussi une histoire à travers. Il y a les parents qui participent à l'organisation, donc ils se mobilisent aussi, qui sont solidaires avec le projet. Et au-delà de ça, il y a de montrer aussi que le sport, il y a une éthique, parce que maintenant, avec tous les scandales autour du foot, autour de plein de sports, on voit un sport qui transmet quelque chose d'éthique là-dedans, des luttes, l'émancipation. Et puis sinon, y a le fait d'amener des débats importants dans un quartier. En général, quand on fait une conférence, on a tendance à prêcher des convaincus. Mm-hmm. Là, on utilise le sport pour approcher des gens qui ne viendraient pas forcément dans des conférences comme ça, importantes, sérieuses. Et on leur propose un contenu quand même de réflexion, quelque chose d'important, je crois.
Oui, parce que parler de l'esclavage moderne, c'est quand même pas un sujet facile. Vous voulez l'aborder de quelle manière, en fait, ce sujet vaste?
Tu veux y aller?
Oui, je peux pas aller.
Si mal.
Oui, le but de cet événement, c'était parler de l'histoire de la capoeira et aussi parler de la traite moderne. Parce qu'en Suisse, qui a 2 millions d'étrangers, bien sûr qu'il y a des rapports comme ça de la traite moderne. Et la traite moderne, elle prend plusieurs formes. Ça peut être dans une maison, d'amis par amis, des parents par parents. Et le but, c'est d'utiliser l'événement de capoeira pour parler de ça en Suisse.
Et pour parler de ça, vous avez prévu un programme, donc quelques mots sur ce programme.
Oui. Ok. Alors, on y va chronologiquement?
Oh ben oui, soyons fous et originales.
ça tombe bien. Alors, le 23, on projette un film documentaire de Carmen Castillo qui s'appelle « On est vivant ». En fait, elle se pose des questions. Elle était amie avec Daniel Ben Saïd, qui était un philosophe trotskiste en France, qui est mort, je crois, en 2010. Et à sa mort, elle se pose des questions sur les luttes et qu'est-ce qui fait que les luttes peuvent continuer malgré les défaites. Et je trouve que c'est une bonne manière de commencer aussi par l'aspect positif des luttes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement résistantes, mais aussi créatrices de quelque chose. Et c'est un peu par hasard que c'est tombé le jeudi, mais ça se trouve bien. Et ensuite, après cette projection, on discutera aussi de l'état des luttes actuellement, peut-être au Brésil. C'est intéressant parce qu'il se passe plein de choses au Brésil actuellement. Et avec le mouvement des sans-terres, on aura également des Brésiliens qui viendront et qui pourront échanger là-dessus.
Donc c'est un film suivi d'un débat, en tout cas d'une grande discussion.
On espère,
on vous le souhaite. Ce sera le jeudi 23 à 19h30.
Puis alors le vendredi 24 juin, c'est là que vous allez aborder la question justement de l'esclavage moderne.
Exact. Et le 24, il y aura mon professeur de capoeira, Hernani Alcântara, qui va venir directement du Brésil, historien. Et il va parler de la traite négrée au Brésil, du siècle XVI au siècle XIX. Et puis après, il y aura Hélène, j'ai oublié son surnom, c'est en allemand, et qui est la collaboratrice de la fondation Grotte de Cœur, de Genève, qui sont occupés des victimes de la traite humaine en Suisse. Et elle va parler comment ça se passe, et comment il faut reconnaître une victime de la traite humaine. Ça. Et puis après, on va faire une petite démonstration de capoeira.
Ah, c'est bon. Quand même, on se réjouit de la voir.
Voilà,
c'est le côté ludique de la soirée.
Il y aura moyen de faire des cours aussi, hein, avec votre fameux professeur qui vient du Brésil,
oui.
De faire des cours d'initiation, par exemple, à la capoeira.
Alors, le samedi, le 25, juste pour aller, on aura le baptême. Le baptême, c'est le passage des ceintures. On appelle baptême parce que les anciens maîtres de capoeira étaient catholiques, c'est pour ça qu'on appelle baptême de capoeira. Mm-hmm. Et là, les enfants vont recevoir la ceinture. Il y aura toute une sorte de cours après, les initiations, des cours pour les avancés, pour l'intermédiaire. Il y aura des profs qui vont venir, des maîtres de capoeira qui vont venir de Suède, d'Espagne.
Oui, vous attendez beaucoup, beaucoup de monde. Hein. C'est impressionnant de savoir que des gens se déplacent d'autres pays pour venir assister à une rencontre capoeira. C'est assez classique de la capoeira, c'est qu'elle réunit vraiment beaucoup de gens de toutes nationalités.
Et en revenant à tout début, grâce à la résistance qu'on a dû faire la capoeira, on avait fait ça, cette communauté. Et résistance, toujours le changement des expériences. Et c'est pour ça qu'on est toujours comme ça, on fait le tour dans les événements, un des autres vers les autres. Ça, oui.
Et je crois qu'autour de cet événement, il y a aussi une exposition ou deux expositions qui auront lieu.
Alors, il y a un peintre brésilien, je ne connais pas son nom.
Il y a un artiste qui s'appelle Rodrigo Carvalho, qui fait ses tableaux. Il a inspiré ces images afro-brésiliennes et il a donné quelques œuvres pour exposer. Il y aura aussi des expositions d'artistes africains et des photos qui vont venir du Brésil pour illustrer les êtres humains, la culture afro-brésilienne, tout ça ensemble.
Ah, et puis, on a une expo qui s'appelle « Aucune employée de maison n'est illégale », excusez-moi. C'est le collectif Sans Papier, sauf erreur, qui l'a créé. Et donc on l'emprunte pour l'occasion. C'est toujours important de faire tourner ces expos.
D'accord.
C'est un beau programme qui arrive. On se réjouit en tout cas beaucoup. On rappelle que cette rencontre de capoeira aura lieu du 23 au 25 juin. Ça fait quoi, dans 3 semaines, 2 semaines et demie par là. Voilà, ce sera.
Les gens ont le temps de se préparer aussi physiquement.
Ça. Un petit entraînement au fitness, pourquoi pas, hein, n'est-ce pas? Un petit entraînement fitness, c'est nécessaire?
Peut-être.
Ouais, voilà. Ça se tiendra donc du 23 au 25 juin au Centre socioculturel de Bellevaux. Vous pouvez retrouver toutes les informations et le programme sur le site du centre www.bellevaux.ch. Merci beaucoup, Sivaldé Oliveira.
Merci à vous.
Bon festival. Vous êtes président de l'association Bantu Brasil. Et merci à Savine Pedraza d'être venue nous en parler ce soir. Vous êtes, animatrice au Centre socioculturel de Bellevaux. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Et merci à Jean-Luc pour la préparation de ce sujet.
Merci, Fanny.
Merci.
Il va presque être 19h, l'occasion encore de prolonger un tout petit peu cette émission puisque nos invités sont arrivés, nous allons parler d'homosexualité, de handicap, tout ça dans quelques instants. Et puis comme chaque mardi, nous allons retrouver les mardis de Stéphane Venanzi, ce sera dans quelques instants, avant de laisser place au Café des Croissances qui se tient ce soir ici à Pôle Sud. Vous l'entendez d'ailleurs, beaucoup de monde derrière nous, beaucoup d'ambiance.
Radio Django, vivre à Lausanne.
Et dans cette rubrique Vivre à Lausanne, on parle aujourd'hui
esprit, on pourrait dire, d'égalité et d'acceptation de tous. Bonsoir Émilie.
Bonsoir Fabien. Effectivement, nous allons ce soir nous intéresser à la question de l'homosexualité chez les personnes en situation de handicap.
Et la Fondation Ebenezer se trouve derrière cette lutte, j'imagine.
Exactement. C'est à la suite de la première journée de la citoyenneté, qui a eu lieu le 30 septembre 2015 à Ebenezer Lausanne, qu'un mouvement nommé « Tous citoyens est né ». Durant cette journée, des questions relatives à l'intégration dans la communauté pour les personnes en situation de handicap ont été relevées et travaillées par les résidents, mais aussi par les employés. Ainsi, cette journée avait pour but, en plus de sensibiliser les professionnels travaillant dans le domaine du handicap, de faire essaimer de nouvelles idées pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent être reconnues comme des personnes à part entière de notre société.
Alors, quelles sont les principales pistes qui sont nées durant cette journée, Émilie ?
Alors, une des pistes phares qui est née suite à une votation de cette rencontre est le fait d'accepter les autres comme ils sont. Cela a donc été ensuite récemment concrétisé, entre autres, par le lancement au 1er juin 2016 d'une association lesbienne, gay, bisexuelle et trans, donc LGBT, qui a été baptisée Alliage.
Et cette association a donc officiellement débuté mercredi dernier. Alors pour en parler ce soir, nous sommes accompagnés de Carlos Correvon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un jeune homme de 22 ans, résident
27,
à Ebenezer.
27.
Pardon, 27.
27.
Ah, ouais. Soyons précis. 27 ans donc et résident à Ebenezer. C'est vous qui avez lancé cette association. Merci d'être avec nous.
Merci, merci à vous.
Et nous sommes également avec Omar Odermatt. Bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Alors, vous êtes journaliste et veilleur à Ebenezer et tous les deux membres du comité d'Alliage. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette association LGBT et quels sont ses buts ?
En fait, cette association que j'ai montée, en fait, c'est pour travailler contre la discrimination, l'homophobie et aussi pour pouvoir que les gens puissent s'exprimer, pour que c'est vrai que notre monde, c'est difficile. Et c'est pas, les gens ils voient ça comme un peu bizarre, quoi. C'est pour ça que c'était mon but, c'est pouvoir travailler contre l'homophobie, contre la discrimination, et tout qu'en osant, quoi. Et que les gens de dehors, des Ebenezer et de l'extérieur, ils peuvent aussi peuvent venir. Et c'est pour ça que moi j'ai monté ça, c'est pour travailler de ces gens-là, quoi.
Omar ?
Oui, alors Alliage, pour résumer un peu en quelques mots, hein, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une nouvelle association, comme vous l'avez dit, Émilie, qui a été fondée le 1er juin 2016. Et cette association LGBT vise à soutenir les personnes concernées ou vivant l'homosexualité. Donc elle ne s'adresse pas uniquement à des personnes en situation personnes homosexuelles, mais aussi à des parents, à des amis. Donc nous, notre idée, c'est vraiment d'articuler homosexualité et handicap. Voilà, ça je dirais que c'est le principal. Ensuite, s'agissant des buts, hein, comme vous l'avez demandé Fabien, disons les principaux buts, bah, tu l'as aussi résumé hein, Carlos, très bien, mais juste rappeler deux, trois choses. L'idée c'est vraiment de favoriser une reconnaissance sociale et politique des personnes LGBT et homosexuelles. Et ça je pense que c'est assez unique.
Oui, parce que c'est quelque chose qui n'est pas d'actualité du tout entre homosexuels et handicapés ou vice-versa, ou comment ça se passe actuellement Omar ?
Ben, en fait, il y a... peut-être on peut juste faire un peu la généalogie hein, du projet, on en reparlera après, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a aucune association qui s'adresse à des personnes homosexuelles en situation de handicap.
Ouais.
Et donc, certaines associations, enfin, on a eu quelques échanges, elles nous ont dit oui, mais effectivement, nous avons parfois des membres qui sont dans cette situation-là, mais qui ne trouvent pas le lieu adéquat. Mais je pense que Carlos va beaucoup mieux en parler que moi. Et j'aimerais juste peut-être reposer un petit peu le contexte de cette association. D'une part, j'aimerais préciser que cette association émane donc d'Ebenezer Lausanne et non pas de la fondation, hein, juste assez important de le dire. Et c'est une association indépendante qui a été créée donc, le 1er juin. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette association s'ancre dans le mouvement Tous Citoyens qui est né à Ebenezer. Mmh. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a quelque chose dans le vent maintenant, c'est que depuis que la Suisse a ratifié en 2014 la Convention de défense des personnes en situation de handicap, il y a pas mal d'actions qui pullulent un peu en Suisse, qui visent justement à faire reconnaître ces droits-là. Donc je dirais que notre association s'insère dans cette constellation d'actions.
D'accord. Et pour revenir à toi, Carlos, à vous, comment avez-vous pensé à créer cette association LGBT ?
En fait, pour que moi, je suis une Brésilienne, en fait. Et en fait, moi, j'ai adopté pour ma mère qui est suisse, qui habite à Genève. Et en fait, comme je suis gay, moi, je voulais aussi pouvoir faire une association comme ça pour lutter contre les droits humains, les droits pour tout le monde qui aussi passe par la même situation, parce qu'on ne parle pas souvent, on ne parle pas beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais monter ça. C'était, en fait, moi et Omar, on s'est connus à l'association Ebenezer. Mm-hmm. On faisait des votations et c'est là qu'on m'a dit, ah, on pouvait faire une association pour des gays. Donc c'est là qu'on a discuté, c'est là qu'on a parlé avec Omar, et c'est là qu'on a lancé le projet, quoi.
D'accord, donc c'est un heureux alliage, on pourrait dire. Et alors justement, quelles vont être vos activités et vos projets ?
Oui, mes projets, ça va être par exemple dans l'association, qu'on peut sortir, on peut faire qu'on peut faire un groupe, qu'on peut, les gens peuvent sortir, peut aller dans des fêtes, des festivals, des trucs comme ça. On va faire tout qu'une association gay peut faire, tu vois.
Alors, Carlos, vous visez d'avoir uniquement des personnes qui souffrent d'un handicap, qui sont en situation
non,
de handicap ?
Non, pour tout le monde aussi, c'est pour tout le monde. Les familles qui aussi passent pour les mêmes situations, voilà. Il y a des gens qui souffrent quand même, hein, les parents, comme ça, c'est pour tout le monde, c'est pas sur nous, mais c'est pour tout le monde.
Et concrètement, quel est votre prochain projet ?
Mon prochain projet, c'est que voilà, que maintenant qu'on a monté l'Alias, que le 25 juin, il va y avoir Gay Pride, et que si les gens ils veulent participer avec nous, ils peuvent venir sans problème, quoi.
Mais je dirais juste pour revenir un petit peu sur les actions. Bon, alors l'association est toute fraîche, hein, on n'a même pas fait une première réunion du comité. Mais disons, effectivement, comme l'a souligné Carlos, il y a déjà le projet de la Gay Pride du 25 juin, hein, qui est important à nos yeux. Et je tiens ici à remercier aussi Vogue pour sa collaboration et son soutien dans cette démarche-là. Et je dirais qu'une autre ligne d'action qui a été décantée lors de l'Assemblée Générale, c'était vraiment très intéressant, c'est de dire, bon, effectivement, il y a des membres de l'association qui sont en situation de handicap, qui sont, qui n'ont pas forcément le droit de vote, qui sont sous curatelle. Et sachant qu'on peut récupérer les droits citoyens des personnes en situation de handicap, peut-être une de nos lignes d'action, ça sera justement de démarcher auprès des autorités pour voir dans quelle mesure les membres de l'association pourraient récupérer leurs droits citoyens pour de nouveau participer à la vie publique de la société.
Omar, vous le disiez à l'instant, l'association Vogue, vous êtes un peu en partenariat avec. Comment ça se passe ? Quelles sont vos relations ? Parce pour situer dans le contexte, on en avait parlé au mois de novembre, on avait fait un mois ici sur Radio Django spécial LGBT, on avait parlé notamment avec Vogue. Quelles sont vos relations avec eux ?
C'est-à-dire que Vogue nous apporte un soutien, notamment principalement à l'occasion de la Gay Pride. C'est un soutien, un soutien comme on pourrait chercher des soutiens. On cherche d'ailleurs à faire des collaborations avec d'autres associations et d'autres institutions. Parce que l'idée d'alliage, c'est de créer un réseau d'organisations autour de cette association. Voilà.
Et puis, alors, dans la même lignée, qu'est-ce qui distingue finalement, Carlos, votre association d'autres associations LGBT, peut-être au-delà du handicap
En fait, c'est aussi, comment je pensais dans cette association, c'est pouvoir qu'on s'y unit tous ensemble pour pouvoir... qu'on a un partage, qu'on a partagé ça, tu vois. Mais c'est pas sur le niveau d'être dedans, mais partager ça pour tout le monde, tu vois.
D'accord. Et alors, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour devenir membre de votre association et puis quels avantages ça peut avoir ?
Carlos.
En fait, si vous voulez faire partie de l'association, bienvenue quand même, c'est pas fermé. Et si vous voulez, vous pouvez parler avec moi ou avec Omar, qui est disponible pour écouter tout ce que vous voulez, quoi.
Je dirais que c'est même très loin d'être pas fermé, c'est surtout très ouvert. Effectivement, alors les conditions d'accès à l'association sont faciles pour les personnes à l'AI ou en situation précaire. L'entrée n'est que 5 francs. Sinon, on fait aussi des prix spéciaux pour les couples et même pour les familles, donc pour dire qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde. Et donc il suffit juste de vous adresser, d'envoyer un petit email au comité de l'association qui est comité@gmail.com et voilà, c'est facile d'y adhérer.
Voilà, et puis on mettra tous les liens bien sûr sur notre site. Merci beaucoup Carlos Correvon
d'être
venu parler de votre association que vous avez montée aussi avec l'aide d'Omar Odermatt ici. Quoi Omar ?
Oh oui, et surtout le soutien d'Ebenezer Lausanne.
Le soutien d'Ebenezer Lausanne. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et on rappelle respectivement que Omar, vous êtes veilleur. Et puis Carlos, résident à Ebenezer Lausanne. Et que cette initiative vient de vous, Carlos. Ouais. Qu'est-ce que je dois encore rajouter que c'est une association qui s'est faite en collaboration avec des membres et qui a lancé donc cette association. On le rappelle, qui s'appelle Alliage et qui vise à soutenir et faire reconnaître les personnes LGBT en situation de handicap suite à la première journée citoyenne d'Ebenezer Lausanne. C'était en septembre 2015. Et puis encore un petit mot pour vous rappeler qu'il ne faut pas hésiter à contacter cette association Alliage qui cherche activement des membres. Vous pouvez envoyer un petit mail, comme on l'a dit avant, à comitealliage@gmail.com. On vous met le lien également sur notre site. Et puis merci beaucoup à Émilie pour la préparation de ce sujet à retrouver sur notre site www.django.fm.
Radio Django, culture.
Les mardis de Stéphane Venanzi, c'est des coups de cœur ou des coups de griffe, l'un n'empêche pas l'autre à propos d'événements culturels divers et variés en région lausannoise. Enfin, je dis ça en temps normal, car cette semaine, notre chroniqueur Stéphane, grand amateur de train, enfin, il était inscrit au Junior Club. C'est dire, Stéphane est grimpé cette semaine dans le tortillard qui relie Nyon à la Cure et s'est rendu jusqu'à Genolier, en plein cœur de la côte, pour y voir les œuvres de la lausannoise Gilberte Weil, exposées jusqu'au 12 juin à la galerie Au Temps qui passe.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
En espérant le retour des beaux jours, je vous invite à vous enfuir, à pied, à cheval, mais pas en voiture, le plus simple demeurant de prendre le train, de Lausanne et sa région pour vous rendre dans le village gentrifié de Genolier. Pourquoi précisément là-bas ? Évidemment pas pour aller vous refaire une beauté dans la célèbre clinique du lieu, mais pour aller visiter l'exposition de Gilberte Weil qui se tiendra jusqu'au 12 juin à la galerie Au Temps qui passe.
Qui dit c'è mal di me, si è maledetto. Sia maledetto per una settimana, e lunedì gli venga il mal di petto, e il martedì la febbre maremmana, mercoledì la messa e il fuoco a letto, e il giovedì sia tutto pelle e ossa, e il venerdì sia messo in una bara, e il sabato calato in una fossa.
Certes, je vous l'accorde, sachant que vous pouvez déjà admirer 30 œuvres de l'artiste sur l'internet sans bouger de chez vous, vous seriez en droit de vous demander quel impérieux besoin pourrait vous obliger à vous déplacer. À part peut-être si vous avez particulièrement envie de contribuer à payer l'indécent salaire d'Andreas Meyer, actuel patron des CFF, qui gagne davantage en un mois que ma femme, aide-soignante, en une année. Il existe heureusement une autre raison. À savoir que la peinture de Gilberte Weil ne se révèle vraiment qu'en étant découverte grandeur nature. Alors seulement apparaît sa véritable intensité, la vivacité des tons utilisés, de même que l'épaisseur de la pâte étant, comme vous pourrez vous en rendre compte, difficilement reproduisible en photographie.
Tanto dubile sangue d'un serpente, non mi leva più chiacchiere ignorante, non mi leva più chiacchiere ignorante. Tanto l'onore lo mantengo sempre. Bren, 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 non posso salutare da te. Bren, 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 non posso salutare da te.
Mais surtout, il est nécessaire de se retrouver face à la toile pour saisir toute la subtilité de cette peinture, car elle n'est simple et géométrique qu'en apparence uniquement. Dès que l'on s'approche, on remarque que la plupart des lignes ne sont pas droites et que les formes s'avèrent encore moins souvent symétriques, qu'elle possède toujours un coin brisé ou un arrondi sensiblement aplati. C'est d'ailleurs ce qui fait le charme de ces paysages, à l'instar de leur atypique combinaison de teintes chaudes, placées les unes à côté des autres sans jamais se mélanger. Une méthode de représentation qui rappelle celle utilisée par le regretté Alberto Chiarini pour évoquer la campagne désolée de sa natale province de Teramo dans les Abruzzes. À la semaine prochaine.
Les mardis de Stéphane Venanzi.
Six sujets au sommaire de ce grand direct, l'homosexualité chez les personnes handicapées, c'était il y a quelques instants le RBI qui était l'un des dossiers du mois du magazine Moins qui sort pour le mois de juin-juillet, on en parlait tout à l'heure avec un de ses rédacteurs, les hotspots pour les réfugiés, la tragédie des minerais en République démocratique du Congo, la capoeira et les mardis de Stéphane Venanzi. Voilà, c'était le programme de ce mardi 7 juin sur Radio Django. Tous ces sujets sont à retrouver en temps et en heure à votre disposition jour et nuit 24 heures sur 24 sur notre site www.django.fm. La semaine prochaine, nous fêterons les 25 ans de la grève des femmes. C'était effectivement en 1981. Nous vous proposerons une émission consacrée donc à la question des femmes, messieurs et mesdames. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous donne donc rendez-vous pour un nouveau grand direct mardi prochain à partir de 18h. Une émission comme chaque semaine en direct et en public de Pôle Sud. Dans les médias, je cède la place au Café Décroissance qui se tient ici à Pôle Sud avec beaucoup de monde. Vous avez encore quelques minutes pour venir. Et puis pour vous, auditeurs de Django, je vous laisse avec la musique de nos playlists, de nos programmateurs sur radio.django.fm. Belle suite de soirée à vous.